Radio Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, arrestation d'un député provincial honoraire du Nord Kivu, jeudi à Beni par le FRDC, Jean-Paul Ngahangondi est réproché par l'armée d'avoir fait partie du groupe des ADF qui ont attaqué la localité d'Engite, située à 17 km de la ville de Beni, des imputations rejetées par les prévenus. 4 200 000 dollars américains, c'est les fonds alloués au programme intégré de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation dans la province du Kwilu pour l'année 2024. C'est ce qui ressort de la 8e réunion du comité de pilotage des programmes intégrés RED+, ouverte jeudi à Bandundu. Certaines aires de santé du Maniema sont touchées par la montée des eaux du fleuve Congo. C'est notamment la zone de santé de Ferekeni. Le médecin-chef des zones de santé lance un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés, surtout les enfants de moins de 5 ans. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu où Jean-Paul Ngahangondi, député provincial du Nord Kivu, entre 2019 et 2023 a été arrêté et placé en détention depuis jeudi à Beni par le FRDC. Il est accusé par l'armée d'avoir fait partie du groupe des ADF qui ont attaqué la localité d'Engite, située à 17 km de la ville de Beni. Des accusations rejetées par Jean-Paul Ngahangondi. Martial Papimukeba pour les détails.
C'est devant des journalistes locaux que Jean-Paul Ngahangondi a été présenté par les porte-parole sortant des opérations Sokola 1 comme l'un des deux capturés pendant les combats en Guité entre les ADF et la coalition des armées congolaises et ougandaises. Capitaine Anthony Mwalushai.
Parce que je vous ai parlé des deux capturés pendant cette opération. Nous avons M. Ngahangondi, Jean-Paul, on l'a trouvé dans l'embuscade au même moment du côté des ADF.
Une version rejetée par l'accusé qui, quelques heures plus tôt, était présenté par l'armée ougandaise à un autre groupe de journalistes comme rescapé de l'attaque. Jean-Paul Ngahangondi.
Quand je revenais de Beni, arrivé juste en face du cadenas militaire FRDC, je me suis retrouvé dans une situation incompréhensible, des crépitements de balles partout. Et lorsque je voulais retourner, je suis tombé. C'est comme ça que les militaires IPDF FRDC sont venus me récupérer là-bas pour me protéger et continuer avec les opérations.
Depuis jeudi, Jean-Paul Ngahangondi est détenu par les FRDC. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Une dizaine de magistrats et agents des parquets civils et militaires de Beni et Butembo viennent d'être formés sur les techniques d'investigation numérique et d'analyse criminelle. Cette formation qui s'est clôturée ce jeudi était organisée par l'unité d'appui à la justice de la MONUSCO Beni. Elle s'est déroulée sur 2 semaines. Objectif, outiller les magistrats sur la conduite des enquêtes en vue de lutter contre l'impunité des crimes commis dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Sadiki Aboubakar pour les détails.
La majorité des magistrats formés ont été nouvellement affectés dans la région de Beni et Butembo. L'une d'eux, Angèle Damako Kakusemo, substitut du procureur près le tribunal de paix de Beni, parle d'une formation bénéfique pour sa carrière.
Vous savez, je viens juste d'arriver à la magistrature. Je suis vraiment ravie de cette formation et sûre de moi que ça va m'aider dans ma carrière.
Le major magistrat Georges Nkoua, auditeur militaire de garnison de Butembo, affirme pour sa part que, grâce à cette formation, il est maintenant capable d'exploiter avec facilité une réquisition de téléphonie mobile.
Toutes les rubriques qui sont là, nous n'étions pas à mesure de les interpréter, mais maintenant j'ai appris toutes les rubriques d'une réquisition qui vient d'une téléphonie mobile, partant de l'email, partant de la localisation, partant des données longitudinales. Avant, on se débrouillait manuellement. Mais maintenant, avec le logiciel que nous venons d'apprendre, i2 Analyst, des IBM, c'est un logiciel puissant et puis qui nous facilite les opérations.
Le chef des bureaux de la MONUSCO, Beni, affirme que cette formation s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO d'appuyer la justice congolaise pour lutter contre l'impunité à travers la répression des crimes commis contre les civils. Les magistrats formés ont souhaité que les juges de Beni et Butembo bénéficient de la même formation. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, dans les territoires des Walikale, la situation qui traverse des dizaines d'enfants déplacés dans des sites de déplacés des groupements Lubérique et Waloa Uroba nécessite une protection spécifique de la part des autorités et des partenaires de protection. C'est le plaidoyer qui lance un officier de protection de l'enfant dans ces territoires. D'après André Ushindi, ces enfants déplacés vivant dans des sites sont exposés à de nombreux risques. C'est entre autres notamment leur recrutement au sein des forces négatives. D'où cet appel de cet acteur au gouvernement et aux partenaires des protections en faveur de cette catégorie d'enfants. André Ushindi est joint par Denise Loukesso.
Vous pouvez demander auprès du gouvernement de toujours multiplier les efforts de la division des affaires sociales, de bien faire les suivis pour les enfants déplacés. Il y a la présence des enfants non accompagnés. Il y a aussi les enfants qui sont aussi associés à des forces ou groupes armés. Il y a aussi également les enfants qui demandent des protections spécifiques, qui doivent être protégés par les services des affaires sociales, mais aussi aux partenaires de mobiliser les fonds, voir comment ils peuvent venir intervenir à Walikale. Parce que ça fait presque une année que Walikale a un gap et n'a pas un appui financier de la protection de l'enfant. Donc c'est plus qu'urgent de venir en aide pour les enfants, de leur prise en charge psychologique, mais aussi réinsertion socio-économique. Particulièrement aussi, il y a les 40 enfants qui sont dans les groupes armés, que le chef a accepté que ces enfants puissent sortir. Comme des acteurs locaux, nous manquons comment nous pouvons aussi faire l'accompagnement de ces enfants-là jusqu'à faire le processus d'aide aux enfants.
Nord Kivu encore, il s'observe une baisse sensible du prix des maïs dans les territoires de Rutshuru. Un sac de 120 km qui coûtait jadis 20 dollars se négocie actuellement entre 13 et 15 dollars américains. Et pour cause, les cultivateurs évoquent les manques d'acheteurs qui n'arrivent plus dans la région, ainsi que les manques de trafic routier pour l'écoulement vers les grands centres de consommation. C'est à cause de l'occupation de cette région par le M23. Du coup, ce sont des familles qui sont plongées dans une misère et une pauvreté indescriptible, ne vivant que de cette activité agricole. C'est comme l'explique ici cet habitant, joint par Denise Loukesso.
Un sac de maïs de 120 kg, voire même 110, qui se négociait jadis à 50 ou 45 dollars, se négocie actuellement à 15, voire même 13 dollars. Les Congolais de Rutshuru, sous occupation de 23, manquent comment ils vont répondre aux différents besoins à leur charge, parmi lesquels besoins, la scolarité des enfants, les soins médicaux, paiement des loyers, etc. Suite à ce manquement de marché pour leurs produits agricoles, et dans le but de voir comment répondre à quelques besoins familiaux, certains se sont arrangés faire une transformation locale des boissons communément appelées lutuku, pourvu qu'ils aient quelque chose à donner à leurs enfants qui seront chassés de l'école, les paiements de soins médicaux, les loyers. Voilà ce que déplore la population de Rutshuru, une population qui vit dans la terreur, une population qui traverse une misère, une population qui ne sait plus à qui pleurer, à qui adresser toutes ses réclamations.
Dans la province du Kwilu, 4 200 000 dollars américains, c'est les fonds alloués au programme intégré de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation dans la province pour l'année 2024. C'est ce qui ressort de la 8e réunion du comité de pilotage des programmes intégrés RED+, ouverte par le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai, jeudi à Bandundu. Le plan budgétaire annuel a été validé à cette occasion et 500 hectares d'arbres seront plantés en 2024. Notamment à Gungu, dans le cadre du projet PIRED avec l'appui financier du FONARED et de la JICA, ont déclaré les organisateurs. Irène Mbomaluzolo.
Évaluer les réalisations du projet PIRED pour l'année 2023 et lancer le plan de travail budgétaire annuel 2024 sont parmi les objectifs de cette 8e réunion du comité de pilotage du programme intégré RED+, tenu jeudi à Bandunduville, à Majestic Hotel. Augustin Kabamba est le chef du projet adjoint PIRED dans la province du Kwilu. Il indique que ce projet a réalisé plusieurs activités l'année dernière.
Il y a eu les activités d'agroforesterie, Il y a eu les activités de planification spatiale, ce que nous appelons l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire. Il y a eu 85 PSAT, donc plans simples d'aménagement du territoire, ce qui permet pour les communautés de connaître leurs ressources. De manière cumulative, depuis le début du projet, nous avons déjà mis en place 424 hectares d'agroforesterie, un potentiel important dans le cadre de la séquestration de carbone. Il y a eu également des matériels qui ont été donnés aux communautés, des semences améliorées pour augmenter au moins la production agricole au niveau des ménages dans les villages du Kwilu.
Cependant, plusieurs défis restent à relever, a-t-il ajouté. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le même registre, en Ituri, le gouvernement provincial a lancé ce jeudi à Bounia deux projets de stabilisation. L'un porte sur l'appui à la réforme foncière et le second sur la sensibilisation au développement de la stratégie provinciale d'intervention en matière des terres en province. L'objectif est de vulgariser la loi sur l'administration foncière, entrée en vigueur depuis 2013, et permettre à la province d'avoir des bases solides pour sa mise en application. Cette activité est organisée par l'Université bilingue du Congo de Beni au Nord Kivu avec l'appui financier du PNUD dans le cadre de la stabilisation de la RDC. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
En plus de l'activisme et des groupes armés dans lesquels vit la province de l'Ituri depuis 2017, l'insécurité due au conflit des terres est également présente. C'est dans ce contexte que le programme de réforme de l'administration foncière a été lancé. Selon les organisateurs, l'objectif est de vulgariser la loi foncière afin de prévenir les conflits des terres, source des tensions communautaires en Ituri. Serge Voutega, coordonnateur du Centre des ressources naturelles à l'UCBC.
C'est une politique publique qui va orienter toutes les interventions foncières au niveau de la province pour développer les stratégies pour répondre aux problèmes spécifiques de la province en matière foncière. Il y a des problèmes institutionnels, il y a des problèmes juridiques, notamment avec les vides juridiques entretenus par la loi de 1973.
Pour Aimé Lobby, conseiller du gouverneur en matière foncière, les conflits fonciers ont évolué dans cette province avec des conséquences fâcheuses.
Aujourd'hui, l'esprit c'est de recadrer les acteurs qui interviennent dans les secteurs. La terre doit être un facteur pour nous nourrir et non pour nous affamer, un facteur pour nous enrichir et non pour nous appauvrir.
Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD réitère sa ferme volonté d'accompagner la politique du gouvernement congolais pour la stabilisation de la RDC. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au chapitre de l'éducation, la province éducationnelle Maniema 1 se dit être prête pour l'organisation des examens de la dissertation. Ces épreuves sont prévues selon les calendriers scolaires 2023-2024, les 6 mai prochains. Dans une interview avec les provèdes, Mokito Kaunda Séraphin informe les parents et tous les acteurs éducatifs que les malles contenant les items des examens d'État sont déjà arrivés à Kindu. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Au Maniema, tout est prêt. Les malles sont arrivés au moment où nous parlons. Nous avions déposé les malles au niveau de l'ANER. Et je pense que à partir du lundi, nous allons déployer tous les intervenants sur le terrain pour l'organisation de l'épreuve de dissertation. Je demande à tous les parents de ne plus hésiter, de ne plus avoir des illusions en tête. Je leur confirme que tout est mis en place pour la bonne organisation de la dissertation le 6 mai à 8 heures. Que les gens ne leur disent pas qu'il y aura un changement ou il y a un changement. À moins que ce changement vienne de Kinshasa à la dernière minute. Mais à notre niveau, la province de Maniema 1 est déjà prête pour accueillir les enfants le 6 mai pour leur premier test de la vie. Les enfants doivent abandonner la distraction. Je leur demande qu'il reste petit temps, ils doivent prendre les choses au sérieux.
Et puis, le ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, salue les efforts fournis par l'ingénieur Thérèse Kirongozi Isaï et son équipe de Women's Technology, qui en plus du robot roulage, viennent de lancer une gamme de produits de consommation, dont les jus, les vins et l'eau naturelle. C'est au cours d'une journée porte ouverte que ces produits ont été présentés au public. La génitrice des robots roulages, Thérèse Kirongozi, parle de leur réalisation dans le cadre de la brasserie artisanale Jokol. Elle est au micro de Grâce Mwenzo Lolenvo.
Nous sommes à Women's Technology. Là, on fait la recherche, l'innovation. Et puis, à partir de là, nous avons voulu aussi donner de l'emploi à la jeunesse en faisant de la boisson. C'est-à-dire là, nous fabriquons des boissons à base de nos produits agricoles, c'est-à-dire nos produits de terroir. Et ce qui est très important, c'est grâce à la recherche, parce qu'il y a l'un de nos compatriotes qui a travaillé sur des gaz, la biogaz. C'est-à-dire, à partir, nous faisons une économie circulaire. À partir de nos déchets organiques, c'est-à-dire nos déchets qui sont dégradables, nous arrivons à fabriquer du gaz méthane. Et à partir de ce gaz méthane, qui nous permet maintenant de faire la pasteurisation et d'arriver aussi à cuire nos produits, parce que nous avons besoin de la cuisson par rapport à nos produits comme gingembre. La particularité aussi, nous avons le vin de palme.
Actualité internationale. Le président de la République démocratique du Congo est attendu à Paris le lundi 29 et mardi 30 avril 2024. Une visite officielle de 2 jours en France avec au programme une cérémonie aux Invalides, des rencontres avec les autorités politiques à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et au Sénat et un forum économique avant une rencontre avec la diaspora congolaise. Il s'agit de la première visite officielle de Félix Tshisekedi en France.
L'invité.
Il nous vient du Maniema, Dr Stanislas Kakomba, médecin-chef des zones de Ferekeni. Certaines aires de santé de cette zone sont frappées par la montée des eaux du fleuve Congo. Victime, ces professionnels de santé donnent quelques conseils et lancent un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés, surtout les enfants de 0 à 5 à 9 mois. Dr Stanislas Kakomba s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Docteur Stanislas Kakomba, bonjour.
Bonjour Florence.
Certaines aires de santé de votre zone de santé de Ferekeni attaquées par la montée des eaux du fleuve Congo. Côté sanitaire, comment vivent les communautés de ces aires de santé?
Après cette catastrophe, la communauté de l'aire de santé de Toubila et celle de Koé vivent dans une situation précaire. C'est-à-dire ils ont abandonné leurs ménages respectifs pour vivre ailleurs, parfois dans des petits campements au-delà du fleuve, parfois dans d'autres maisons d'accueil.
Parmi les victimes, qui sont les plus affectées?
Bon, d'abord, c'est toute la communauté concernée qui est affectée, mais d'une manière particulière, j'estime que les enfants 0 à 59 mois sont les plus concernés de cette circonstance parce que là, ils seront exposés à toutes les maladies hydriques et d'ailleurs, les latrines sont détruites. Et quand les latrines sont détruites, voilà comment est-ce que l'eau est en train de ravager tout l'espace de ces villages. Et là, la défécation devient contrôlée. Et là, la propagation de plusieurs sortes de microbes est à la portée de ces enfants. Et ces enfants 0 à 59 mois que je déclare, c'est la catégorie la plus touchée, risquerait de connaître un désastre, si je peux dire ainsi. Et entre-temps, ce sont ces enfants-là que nous sommes en train de chercher comment les protéger.
Est-ce qu'à cette période, dans des hôpitaux, il y a déjà des cas de maladies d'origine hydrique qui sont enregistrés?
Bon, j'ai des données épidémiologiques qui sont en train d'être partagées entre nous, l'équipe cadre et les déserts de santé. Oui, certains cas sont déjà enregistrés dans les déserts de santé, que ce soit Toubila, que ce soit Koé. Et la diarrhée est là déjà, mais on est en train de penser comment prévenir que guérir.
À ces 2 heures de santé, la population est estimée à combien?
Bon, toutes les 2 heures de santé ont une grande population et c'est dans les 20 000 habitants dans les 2 heures de santé. Et nous estimons que la population qui est atteinte avec cette catastrophe est à 80% de cette communauté des déserts de santé.
Une catastrophe naturelle qui pousse certains à quitter leur ménage. Quel comportement adopter pendant cette période, docteur?
Là, c'est en amont et en aval. par rapport au comportement sanitaire avec l'hiérarchie. Nous allons prodiguer les conseils, les CCC, changement de comportement, et nous allons demander à la communauté de bien se comporter, d'utiliser de l'eau propre, éviter d'efféquer ça et là, parce que là, après la pluie, il y aura propagation des germes, et ça, c'est en amont. En aval, nous disons que la hiérarchie puisse penser, parce que d'abord, c'est leur communauté, il faut peut-être, si je peux dire comme ça, penser à ravitailler certains médicaments pour lutter contre la diarrhée, les iras, les paludismes, c'est-à-dire en un mot, approvisionnement en médicaments est utile, et rendre disponible aussi les tentes, s'il y en a, des moustiquaires, et toutes les personnes de bonne foi peuvent penser à alimenter du point de vue médicamenteuse, du point de vue équipement de lutte contre les infections, nous appelons ça en termes techniques PCI, ça va nous aider à limiter certains dégâts éventuels qui peuvent surgir pour cette communauté.
Justement, docteur, pour ceux-là qui auront les soucis d'assister les victimes, ils peuvent penser à quoi? Quels sont les besoins urgents?
Les besoins urgents, comme je viens de dire tantôt, d'abord, les rendre disponibles les kits de protection contre les infections. Les médicaments, les structures concernées sont là. Les solités sont très utiles parce qu'en cas de flambée diarrhéique, nous allons recourir à ces solités. Au lieu d'attendre que les cas puissent augmenter d'une manière extraordinaire, et c'est à ce temps-là qu'on doit commencer à approvisionner. Nous demandons les médicaments d'une manière urgente à ceux qui ont la bonne foi. Les médicaments d'abord, les moustiquaires également, parce que là, ils sont dans la forêt. Ils passent la nuit à la belle étoile. Les moustiquaires sont aussi importantes pour que cette communauté soit sauvée de plusieurs difficultés sanitaires.
Docteur Stanislas Kakomba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kiza.
Et c'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mise en onde par Alain Goy, supervisé et coordonné par Jacques-Yves Molima et Jean-Désiré Kanyama. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de votre sympathique attention.